Et voilà pour les infos sportives. On va maintenant passer à l'invité qui est assis en studio. C'est un sport dont nous allons parler, pas n'importe lequel. C'est un sport voilà, où l'actualité est assez forte en ce moment. Ce sont les échecs. Et cet invité, c'est Claude Huguenot. Bonjour Claude.
Bonjour.
Est-ce que tout va bien déjà?
Tout va bien.
Alors Claude, vous êtes président du club d'échecs bisontin Tours Prends Garde. Mais vous êtes là aussi pour parler de ce qui tourne autour du monde des échecs, de votre club et d'un tournoi qui va arriver à partir de samedi justement. Mais avant qu'on parle de tout ça... j'ai vu sur votre site internet, vous avez fait du coup un petit événement en ville ce week-end sur la place du 8 octobre notamment.
Oui, oui.
Voilà, il y avait jeu d'échecs géants, plusieurs tables installées avec des joueurs qui prenaient du bon temps. Comment ça s'est passé du coup? Vous êtes satisfait?
Eh bien, très sympathiquement, oui. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir de nouveaux adhérents, mais d'avoir un peu plus de visibilité et de sortir peut-être le jeu d'échecs de sa confidentialité et d'en donner une image peut-être un peu plus rigolarde, un peu plus sympathique, car malheureusement, on souffre toujours de cette image de jeu, comment pourrais-je dire, il y a la fameuse expression le roi des jeux est le jeu des rois, qui était sans doute vrai autrefois, mais d'une image de jeu un peu élitiste, qui n'est pas du tout la vérité quand on fréquente un club d'échecs, où justement... Oui. Le jeu d'échecs permet cette mixité sociale, comme la plupart des sports, par ailleurs.
Eh ben alors, on va parler du tournoi déjà que vous organisez à partir de ce samedi. Il s'agit du 21e Open de Besançon. C'est un tournoi avec une belle dotation au final, parce qu'il y a quand même 2000 euros qui sont repartagés entre les vainqueurs. C'est un tournoi qui s'étalera sur 4 jours. C'est à la maison de quartier de la Grette. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, c'est un peu une tradition pour la plupart des club d'échecs de France et de Navarre de faire leur tournoi, qu'on baptise parfois un peu pompeusement international. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs de l'étranger qui viennent, mais globalement, c'est pour les joueurs régionaux et quelques joueurs français de toute la France. Pour l'instant, nous sommes une cinquantaine de joueurs à participer.
Et quelles sont vos attentes en termes de nombre de joueurs et de niveau sur ce tournoi?
Ça dépend. Il y a tout de même une dotation, comme disait votre collègue, ça peut intéresser des forts joueurs, des maîtres internationaux, voire des grands maîtres internationaux. On attend. On ne peut pas savoir forcément à l'avance. Les gens ne s'inscrivent pas forcément à l'avance.
Ok. Et sociologiquement, les échecs sont souvent glorifiés comme étant un modèle d'intelligence associé à un monde sans fin, mais aussi à la folie. Et je pense surtout au film Le Prodige, où l'on suit l'histoire de Bobby Charlton. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet aspect?
Alors, je pense que là aussi, le jeu d'échecs souffre de beaucoup d'idées reçues. Et je crois que cette image du joueur d'échecs un peu frappadingue, comme le génial Bobby Fischer, effectivement, comme vous évoquez dans ce film, qui ne montre même pas suffisamment la folie de Bobby Fischer, parce que c'était quelqu'un vraiment génial, mais comme souvent, le génie confine à la folie. Moi, ce que je dirais, c'est que le jeu d'échecs ne rend pas fou, mais à l'inverse, conserve les fous en bonne santé. Dans la mesure où c'est un univers bien cadré, une sorte de fantasme où on peut, vivre sa vie comme une partie d'échecs, toujours la recommencer, et c'est quelque chose de rassurant pour quelqu'un qui est en souffrance psychologique. Et je pense que, en tout cas, cette image du joueur fou n'est pas du tout crédible. Mais c'est vrai que beaucoup de grands joueurs ont trouvé un refuge à leur fragilité psychologique dans le jeu d'échecs. Et comme Bobby Fischer, par exemple, il a commencé à perdre un peu les pédales quand il a tout gagné et qu'effectivement, le jeu d'échecs n'avait plus rien à lui apporter. Et souvent, les grands joueurs comme Paul Murphy, un joueur américain, Bobby Fischer et d'autres, ont perdu pied à ce moment-là. Mais je vous rassure, les joueurs d'échecs sont plutôt en bonne santé.
Et vous aussi?
Et moi aussi. Pas toujours, mais j'essaye.
Les échecs, en tout cas, ça garde un côté assez fascinant. Ça rend bien à l'écran, à part Le Prodige. On peut citer plein de films, plein de séries. Donc, il y a eu La Diagonale du Fou, Fahim, Endgame, The Coldest Game, mais aussi plus... récemment, il y a 2-3 ans, il me semble, la série Netflix, Le Jeu de la Dame. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Tout à fait.
Comment vous jugez tous ces films par rapport à la représentation des échecs et des joueurs?
Pour les autres cités, c'est un peu ancien, je ne me souviens pas. La plupart du temps, c'est assez réaliste de la réalité échiquienne. En tout cas, le Jeu de la Dame en montre une version un peu glamour, avec une superbe actrice. Et je pense que les joueurs d'échecs l'ont vu avec plaisir, parce que souvent, ce genre de spectacles sont pleins d'incorrections par rapport au jeu d'échecs. Alors, l'image qui est véhiculée est spectaculaire, sans doute, mais assez proche de la réalité. Sinon, l'histoire se passe dans les années 60 et il n'était pas possible qu'une forte joueuse puisse damer le pion, si je puis dire, à des joueurs masculins, malheureusement à cette époque-là. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Depuis les années 90, nous avons de grandes championnes qui rivalisent avec les grands maîtres internationaux.
Et depuis le succès du Jeu de la Dame, donc on l'a vu, hein, ça a eu un grand succès. Il y a plein de gens qui sont allés acheter des jeux d'échecs, qui ont voulu s'y mettre. Alors justement, est-ce que pour votre club, pour la Tour Frangarde, est-ce qu'il y a eu des retombées positives sur le club? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux adhérents?
Au niveau de la fédération, il est dit qu'effectivement, le club d'échecs, suite à cette belle série, a été plus tendance. Je pense que beaucoup de gens sont précipités dans des magasins pour acheter des jeux d'échecs qui sont peut-être terminés leur existence assez rapidement dans un placard. Parce que si c'est un jeu par essence, je crois que c'était le grand maître Tigran Petrosian qui disait que c'est une science par rapport à la complexité de l'apprentissage. C'est pas le jeu de petits chevaux. C'est pas un jeu compliqué. Je crois qu'il faut casser aussi cette idée reçue d'un jeu compliqué, mais c'est un jeu qui va demander un apprentissage au moins de quelques heures pour initier.
Et vous l'avez dit hein, auparavant, c'est quand même plutôt mix comme sport, les échecs. Mais est-ce qu'au niveau local, ça l'est? Parce qu'au niveau mondial, il y a en effet des femmes, mais il y a, je crois, que seulement 1% des femmes qui sont dans le top 100, dans les grands maîtres.
Ah, c'est possible, oui. Au niveau des forgeuses, ça reste encore peut-être malheureusement trop peu important. Au niveau de la Fédération française d'échecs, les licenciées féminines sont à hauteur de 21%, ce qui correspond à peu près à ce qui se passe dans notre club. Insuffisamment nombreuses, les femmes. Oui, je dis souvent que le jeu d'échecs, c'est aussi un jeu de dames. Et c'est sans doute le seul sport où une femme peut rivaliser sans problème avec un homme.
Alors, en termes d'adhérents, justement, dans votre club, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'adhérents vous avez?
Oui, nous sommes le plus grand club de Bourgogne-Franche-Comté, avec 375, enfin, pas tout à fait 400 adhérents. Nous sommes sans doute, je m'en enorgueillis, certainement une des plus vieilles associations byzantines, parce que on peut en retrouver des traces en 1870, donc ce n'est pas rien. Alors effectivement, je ne sais pas, je devance peut-être une de vos questions, et le fait que vous nous avez présenté comme un sport, ce qui est vrai depuis 2000, peut-être être surprenant, enfin en tout cas de la part de sportifs. Je me suis amusé ce matin à peser sur une balance précise le poids de la plus grosse pièce d'échecs, 20 grammes. Et l'effort que va faire un joueur d'échecs, c'est de déplacer ces 20 grammes le long d'un échiquier de 40 cm. Donc c'est vrai que l'énergie fournie est limitée. Je pense que ça peut être considéré comme un jeu, parce que un jeu, c'est aussi un ensemble de règles, et Dieu sait si il y a des règles dans les échecs. Et également la compétition.
Oui, bien sûr.
Et pas oublier que le mot sport vient du vieux français des portes, ou de variantes possibles, qui voulait dire jeu, amusement. Et on dit jouer au tennis, jouer au football. Et par ailleurs, la comment pourrais-je dire, les stratégies au jeu d'échecs sont assez semblables à d'autres sports. Ça peut surprendre, mais au foot, par exemple, ce n'est pas un ballon qu'on va passer de l'aile, d'une aile à l'autre, mais c'est des lignes de force. Et on peut, par exemple, même la boxe, qui peut paraître surprenant aussi. Je pense qu'un boxeur peut feinter et menacer à droite pour balancer un uppercut à gauche. Je pense que c'est plus semblable à d'autres sports qu'on ne l'imagine.
Alors justement, vous avez dit quand même plus de 300 adhérents et il y a 50 inscrits. Est-ce que tous les participants du coup en âge d'inscrire à l'Open de Besançon s'y mettent ou pas?
Je pense que dans ces 300 adhérents, il y a beaucoup de jeunes, oui, d'enfance, de scolaires qu'on initie dans les écoles. On intervient à peu près dans 5 ou 6 écoles byzantines. Donc, qui ne sont pas encore au niveau de pouvoir jouer un tel tournoi, qui est difficile d'ailleurs, puisque c'est sur 4 jours, 7 parties, 2 parties par jour, 8 heures de jeu. Pour des jeunes, ça peut être difficile.
Alors, si on parle un peu d'échecs à l'international, le contexte est assez agité, puisque Magnus Carlsen, justement, actuellement le numéro 1 mondial, référence du domaine, moi j'ai l'impression que c'est surtout l'égérie des échecs en ce moment. Et bien, il a accusé un Américain montant de 19 ans, Hans Niemann, de triche. Alors, rappel de l'histoire, justement, ce jeune Américain a battu Carlsen. Et voilà, Carlsen a du mal à considérer que la progression du jeune joueur est probable. Pour lui, c'est improbable. Et qu'il doit fonctionner avec un système de triche. Alors, pour se défendre, Niemann a annoncé qu'il était prêt à jouer nu ou même placé dans une pièce isolée de tout champ magnétique pour prouver sa bonne foi. Et il vient de porter plainte justement contre ses détracteurs, dont Carlsen, mais même le 6e joueur mondial, Hikaru Nakamura. Alors, comment est-ce que vous, à votre échelle, vous jugez ce scandale de triche qui n'est pas avéré, on le rappelle quand même?
C'est toujours difficile à juger. Je laisse à la Fédération mondiale ce travail difficile. C'est vrai que le jeu d'échecs est sûrement un des plus vieux jeux du monde, puisqu'on en trouve des traces quasiment il y a 2000 ans, mais il fait très bon ménage avec le numérique. En cela, il est très moderne, donc et maintenant il est très facile effectivement de sur son téléphone d'avoir un programme de qui peut quasiment être aussi fort qu'un champion du monde.
Et qu'en est-il de la triche au niveau amateur? C'est une pratique qu'on soupçonne parfois.
Je crois qu'elle est plus de l'ordre du fantasme. Je fais remarquer, je ne veux pas prendre parti par rapport entre Carlsen, oui, et Niemann, mais c'est souvent quand même le perdant qui se plaint de triche. Oui. En tout cas, je crois au niveau de la pratique amateur, c'est il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu du jeu d'échecs pour l'amateur, c'est prendre plaisir à jouer, à évoluer, à gagner, bien sûr, parce que c'est un sport, donc il faut être combatif. Mais les enjeux financiers sont tellement minimes que ça serait bien se compliquer la tête pour peu de gains.
Alors les échecs, on connaît la version classique, il y a la version Blitz qui est aussi qui est quand même assez montée peut-être du fait de son divertissement et de son dynamisme. Mais alors j'ai découvert en préparant ça qu'il y avait d'autres modes de jeu, alors pas forcément en compétition, mais comme le Crazy House, donc le Blitz à 4 encore. Est-ce que vous pratiquez un petit peu ces variantes de temps en temps?
Le Blitz, oui, le Blitz à 4, qu'on appelle le catch, je crois, est joué pour s'amuser, mais rarement, plutôt par les enfants pour se distraire. Mais le blitz est joué très régulièrement. Il y a des compétitions de blitz régulières. C'est très difficile d'ailleurs. En tout cas, les grands joueurs jouent quasiment au même niveau que dans des parties longues.
Si on vous parle en termes de technique, pour vous, c'est Alicia qui avait glissé l'idée. C'est quelle est votre ouverture favorite?
Ah. Mais c'est bien pour ça que je suis devenu président du club d'échecs. C'est que je ne joue plus beaucoup. Les ouvertures, c'est très difficile. Ça serait alors c'est peut-être pas trop à la mode aujourd'hui. Alors je ne sais pas si j'ose le dire. Ça serait la défense russe. La défense Petrov, mais qui est une défense qui est censée, quand même, avec les noirs, annuler.
Et après, justement, alors vous jouez plus, et moi c'est une question un peu plus historique. Comment vous avez vu un peu l'évolution parce que, alors personnellement, disons que c'est plutôt sur à partir de Kasparov que je trouve qu'il y avait une renommée, Deep Blue, que ça avait relancé. Comment vous jugez l'évolution des échecs depuis 50 ans?
Alors, c'est un peu difficile votre question, parce que, comme je disais, c'est un jeu de quasiment plus de 2000 ans, donc à mon échelle, c'est un peu difficile à juger. Je pense que le grand événement, c'est effectivement l'ère numérique et le développement depuis à peu près les années 2000 de jeux en ligne. Et l'apparition des programmes d'échecs maintenant qui sont du niveau des grands maîtres internationaux et contre lesquels on ne peut plus jouer d'ailleurs. Mais c'est des outils extraordinaires pour étudier les parties. Vous savez que les joueurs d'échecs, après leur partie, les étudient avec leur adversaire et à la maison grâce à ces programmes d'échecs. Okay. Donc je crois que le grand événement, c'est bien ce qui pose problème au niveau de la triche, puisqu'elle est toujours possible. Moi, je pense qu'elle est plus de l'ordre du fantasme. Alors au niveau des grands joueurs, je ne sais pas, quand il y a de l'argent en jeu, c'est certain que la triche n'est jamais très loin.
Ok. Eh ben, écoute.
Quel est votre joueur favori?
Alors, peut-être Bobby Fischer. Bobby Fischer, parce que c'est aussi un personnage. Mais des joueurs comme Capablanca qui avait un jeu qui paraît évident. Raoul Capablanca était un joueur cubain, champion du monde, et plein d'autres. Je pense que je reconnais que je préfère les joueurs plutôt d'avant-guerre, parce que à leur savoir-faire échiquéen, ils associaient une personnalité. C'était des personnages. Alors qu'aujourd'hui, les joueurs d'échecs sont devenus des sportifs de haut niveau, mais qui ont perdu peut-être en ce côté glamour que justement a su révéler ce fameux jeu de la dame.
Eh ben écoutez, je trouve que on pourrait même étendre ça aux sportifs de manière générale qui sont vraiment casés dans le rang sport plus que de la personnalité. Eh ben écoutez, Claude, merci. On va rappeler quand même, du coup, Tour Prend Garde, c'est une association qu'on peut rejoindre à n'importe quel moment.
Tout à fait, tout à fait.
Qu'on peut venir juste pour jouer. Si on veut être plus compétiteur, on peut aussi venir rejoindre.
Et que vos auditeurs peuvent venir nous rendre visite. On est installé à la maison de quartier Saint-Ferjeux. Le temps fort pour nous, c'est le samedi après-midi. Et peuvent venir gratuitement, bien sûr, nous rencontrer, faire des parties amicales avec nous.
Et pour ça, vous avez d'ailleurs un site internet où il est très simple de retrouver votre contact et tout ce qui était associé. Donc on rappelle, le tournoi a lieu ce samedi, on peut venir en tant que spectateur, tout simplement.
Oui,
aussi,
oui, bien sûr.
Donc voilà, c'est samedi jusqu'à mardi, donc du tournoi de bon niveau, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Merci Claude, et on va passer à notre deuxième pause musicale, et ça sera Otherside avec Young and the Giant. On se retrouve tout de suite sur Radio Campus Besançon.